Bonjour, bienvenue sur Underscore, sur Radio Méga. Vous pensiez naviguer sur le net sans que personne ne s'en rende compte? Il y a bien des traces, et ce pas que sur les canapés, même s'il semble qu'en private joke, les hackers s'adonnent à de nombreuses pratiques, ça devrait vous intéresser. D'ailleurs, on vous en parle de suite.
De suite?
Eh oui, de suite. Bonjour Mimouane, bonjour Doudou,
bonjour Cécile.
Bonjour Medbel.
Bonjour. Coucou Cécile. Coucou
Mimouane. Bonjour Doudou, bonjour Medbel. Et bonjour les auditeurs.
Bonjour les auditeurs. Deuxième épisode de l'année 2021.
Oh là là.
On était contents.
C'est chaud,
de vous retrouver,
hein. Ça démarre sur les chats poudreux.
Un peu de vin chaud contre le froid.
Mais
avec
bien
modération.
Sûr. Bien sûr, mais c'est pas le sujet du jour, puisque le sujet du jour, on vous parlera de navigation privée.
Ah ouais. Tu navigues en privé sur Internet.
Ah, non, jamais.
Bon,
tout de suite
on
un petit peu d'actu,
bien.
Alors.
Eh ben oui. Alors, qu'on a ?
Une juge britannique refuse d'extrader Julian Assange. Malheureusement, pas à cause des arguments de sa défense, qu'elle rejette majoritairement, mais uniquement à cause de son état de santé. Le président du Mexique a déclaré lui offrir l'asile politique alors que la France refuse toujours.
Le Conseil d'État autorise les fichiers de renseignement élargis. Et c'est parti pour le fichage des opinions politiques et autres joyeusetés.
Lors de la Rodière en lice pour présider l'ARCEP. En tout cas, sur Adopi, elle avait plutôt bien travaillé et n'en déplaise à Xavier Niel, au moins elle connaît ses dossiers.
Eh oui. Nouvelle version de l'application je sais pas comment ça se dit, de l'ARCEP justement. L'ARCEP lance donc une nouvelle version de cette application pour détecter les bridages de flux et de ports internet. Oui, analyse le trafic généré via l'application, notamment pour déterminer si l'opérateur est susceptible de brider ou de prioriser certains flux de trafic, enfreignant ainsi la neutralité du net.
Peut-être un futur décret contre l'obsolescence logicielle, avec notamment un indice de réparabilité, que Louis Rossmann trouve ridicule et il n'a pas tort quand Apple se donne de bonnes notes sur la documentation, alors qu'il se contente d'indiquer comment ouvrir la machine. Ce qu'à peu près n'importe qui trouvera seul et que les schémas sont par contre toujours introuvables et la disponibilité des pièces, ce qui pour Apple se limite à la carte mère, mais surtout pas à la puce à quelques euros qui gère l'alimentation et qui tombe souvent en panne.
Comme disait Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde.
Création d'un syndicat chez Google. Malgré les tentatives de Google d'empêcher la syndicalisation de ses employés, plus de 225 d'entre eux se sont regroupés pour défendre leurs droits, ainsi qu'imposer un minimum d'éthique de la part de la multinationale qui, à une époque pas si lointaine encore, revendiquait de ne pas faire le mal.
Ah bon, c'est bizarre, c'est pas le monde bonbon rose avec plein de jeunes et qui développent plein d'idées ?
Ils ont plein de saladiers avec des bonbons, mais bon,
c'est ça.
Ça suffit pas.
Ça suffit D'accord. pas. Non, mais surtout, il y a des ingénieurs qui bossent chez Google, mais il y a surtout plein de gens qui sont très mal payés et qui font toutes les basses besognes, comme on dit. Hein.
Peertube version 3, ça part en live. Ça y est, la version 3 de Peertube est sortie. On vous l'avait déjà annoncé, maintenant c'est officiel. On peut faire du direct avec Peertube. Depuis OBS notamment, on va pouvoir se passer de YouTube et Twitch, etc. Ouais.
Lancement du financement participatif pour les JDLL 2021. Les journées du logiciel libre auront lieu le week-end du 3 et 4 avril, si le contexte sanitaire le permet. Avant de pouvoir réaliser cette édition dans les conditions meilleures, le comité d'organisation a lancé un financement participatif. Si vous souhaitez donc obtenir plus d'informations ou contribuer, c'est sur Hello Asso.
Campagne de dons pour le projet d'ordinateur portable ouvert à base de PowerPC. Le projet avance, on arrive à la phase prototypage.
C'est tout pour les news, du coup on va se faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après.
Attari. Comment protéger vos photos et vos échanges privés ?
C'est sympa ça. C'était quoi, Cécile?
Mais oui, Done and Dusted de Genesis Project, c'est une musique issue d'une démo Atari qui a été réalisée et produite pour Noël de cette année.
Wow,
donc
c'est
on
tout
voulait
récent.
Vous en faire profiter, mais bien sûr.
Merci beaucoup. On passe au sujet?
Le sujet. Comment protéger vos photos et vos échanges privés? Comme tu disais souvent, ça ne sortira pas d'Internet.
N'est-ce pas?
Tel est le magnifique dicton que certains s'amusent à scander, surtout quand vous venez de partager un morceau très privé ou très confidentiel de votre vie ou celle de votre entreprise. Si la technologie est un domaine qui vous échappe, ici vous trouverez quelques tips pour vous en sortir. Alors, une navigation pas si privée en mode privé. Oh. En effet, la navigation privée est donc très utile quand vous voulez garder le secret de la visite de tel ou tel site. En tout état de cause, ça vous évite aussi que votre entourage proche regarde votre activité. Mais votre activité en ligne ne disparaît pas réellement au moment où vous fermez le mode incognito. Votre activité peut rester encore visible pour les sites web que vous consultez, votre employeur ou votre établissement scolaire, votre fournisseur d'accès Internet. Tout simplement, chaque requête transite par les routeurs de l'entreprise, par exemple. En outre, le private browsing ne vous préservera pas du risque de voir vos données être récoltées par les autorités ou interceptées par un hacker qui capte vos données depuis votre appareil ou bien depuis le serveur du site. De même, les sites web que vous sillonnez en incognito gardent chez eux votre adresse IP et vos données de géolocalisation, ce qui leur permet de vous identifier et de savoir ce que vous avez visité, voire après de vous proposer des publicités dans d'autres sites, la navigation privée ou pas. Le principe étant que vous autorisez ces sites à vous donner des cookies, après tout, qui n'aiment pas les bons petits gâteaux au chocolat. Vos données en mode incognito resteront bien stockées dans les nuages. D'ailleurs, il vous suffira de vérifier dans My Activity de votre compte Google pour retrouver en détail ce que vous aviez vu. Ah mince alors!
Ah mince!
Par ailleurs, bah vos recherches sur le moteur de... Oui.
Pour rappeler, mode incognito, en fait, dans Firefox par exemple, ça s'appelle navigation privée. En fait, ça ouvre une autre instance du navigateur qui va oublier en fait tous les cookies qui sont déposés dans cette instance-là quand vous avez fermé la fenêtre. Mais c'est pas pour ça que vous avez rien fait. Donc si vous vous connectez à votre compte Facebook, votre compte Google et tout ça dedans, bah Google et Facebook, ils vont savoir que vous êtes connecté quand même. Hein.
C'est ça. Et par ailleurs, vos recherches sur les moteurs de recherche restent bel et bien enregistrées par celui-ci. Et oui, ce n'est pas parce que vous êtes en mode privé que cela épargne vos données d'être monétisées.
Ouais. Par contre, si vous avez l'habitude d'être connecté, par exemple sur Google, dans votre navigateur, quand vous lancez une navigation privée, vous allez sur Google, vous ne serez pas connecté. Par contre, vous serez depuis la même adresse IP. Donc, Google risque de se dire, ouais, peut-être qu'il essaie de me cheater, lui. Et en fait,
ouais, il va faire des rapprochements.
Mais il ne peut pas être sûr. Voilà. Tant que vous ne vous connectez pas, bah, c'est quelqu'un d'autre, quoi, potentiellement.
Alors, il y a aussi les métadonnées. Là aussi, si vous souhaitez transmettre des photos, sachez qu'à l'intérieur de celles-ci, il n'y a généralement rien d'anonyme. En effet, les smartphones ou bien ordiphones sont là pour enregistrer votre localisation au moment où vous avez pris la photo, la date et l'heure. En soi, cela n'a rien de gênant. Et pourtant, combien de personnes se sont retrouvées piégées car ils ont publié des images dans des circonstances où ils devaient être sagement être au travail ou bien en arrêt maladie.
Même les rhinos, ils aiment la vie privée. Hein. Il y a certains parcs en Afrique où ils mettent des gros messages pour dire « S'il vous plaît, désactivez la géolocalisation » parce que ceux qui veulent l'y voir, ils récupèrent la géolocalisation pour savoir où aller tuer les rhinocéros. Quoi. Donc, c'est pas sympa.
Ah, en plus, ouais. Et ces options peuvent être désactivées. Si vous voulez rendre les images anonymes, vous pouvez en faire des copies, des captures d'écran. Vérifiez aussi que les tags relatifs à vos images ne détiennent plus aucune information personnelle. Aussi, ne gardez pas vos photos supprimées. Par exemple, sur les iPhones, il existe un dossier supprimée récemment, qui conserve vraiment toutes vos images pendant un temps donné. Ainsi, il est tout à fait possible de les restaurer, donc de les revoir. C'est surtout que si vous avez fait des photos compromettantes, et là... Chérie, t'as fait quoi aujourd'hui? J'étais à la maison.
J'ai fait des selfies.
C'est quoi ces photos?
Je sais pas si c'est déclenché tout seul.
Oui, oui, oui. Vous pouvez aussi, à la place de Google, hein, pour un petit peu priver vos données.
Et pas mettre tous ces gens dans le même panier.
Voilà, vous pouvez aussi utiliser Quant. Hein. Alors, ce moteur de recherche Made in France vous propose de ne pas tracer les utilisateurs, ni même de vendre leurs données personnelles. Cela dit, cela reste une entreprise privée. Il est vrai qu'en tant que telle, elle aura pour principe de monétiser les mots-clés. Ne partagez donc pas systématiquement vos photos avec des explications, avec aussi des applications sur des smartphones. C'est un principe qui peut vous coûter cher. Ainsi, ça s'avère aussi vrai, notamment sur les applications telles que Messenger ou WhatsApp qui ont récemment été épinglées car elles vont chercher dans votre téléphone vos contacts.
Si tu veux pas que ce soit sur Internet, ne le mets pas sur Internet.
C'est ça. Mais ça, après, tous les gens ne sont pas au courant de ça, de ce genre de pratique. D'ailleurs, maintenant, Instagram demande systématiquement, presque, me demande régulièrement d'autoriser si oui ou non c'est les dernières photos ou si c'est la bibliothèque entière qui est partagée avec l'application.
Alors, tu as mis une photo il y a 35 ans dans l'appli. Est-ce que tu étais vraiment sûr de vouloir la mettre?
Ça, je ne sais pas. Après, vous avez un tracker sachant traquer. Certains navigateurs comme Safari, depuis iOS 14, bloquent les trackers. Ce sont des outils développés pour pister votre navigation de site en site. Une norme que Chrome doit également adopter prochainement. Et Firefox a de nombreuses extensions pour ça depuis longtemps. La première à installer était bien sûr uBlock Origin. Vous avez aussi le chiffrement qui vous permet de vous sécuriser. Alors, le chiffrement d'un message permet justement de garantir que seul l'émetteur et le destinataire légitime d'un message en connaissent le contenu. C'est une sorte d'enveloppe scellée numérique. Une fois chiffré, il faut avoir une clé spécifique. Un message est inaccessible et illisible, que ce soit par les humains ou les machines. Il y a différentes sortes de chiffrement. Vous avez le chiffrement symétrique qui permet de chiffrer et de déchiffrer un contenu avec la même clé, appelé alors la clé secrète. Le chiffrement symétrique est particulièrement rapide, mais nécessite que l'émetteur et le destinataire se mettent d'accord sur une clé secrète commune ou se la transmettent par un autre canal, bien sûr, parce que si ils le transmettent en clair, c'est clair que là, s'il y a un pirate capture cette clé, votre message n'est plus du tout secret.
Pour le digicode, c'est 1, 2, 3, 4.
Après, vous avez le chiffrement asymétrique qui suppose que le futur destinataire est muni d'une clé paire. Une clé privée, il y a un système de principe de clé privée, clé publique, et qu'il fait en sorte que les émetteurs potentiels aient la clé, aient accès à sa clé publique. Dans ce cas, l'émetteur utilise la clé publique du destinataire pour chiffrer le message, tandis que le destinataire utilise sa clé privée pour le déchiffrer. Parmi ces avantages, la clé publique peut être connue de tous et publiée. Mais attention, il est nécessaire que les émetteurs aient confiance en l'origine de la clé publique, qu'ils soient sûrs qu'il s'agisse bien de celle du destinataire. Il y a aussi un autre point fort, plus besoin de partager la même clé secrète. Le chiffrement asymétrique permet de s'en dispenser, mais il est malheureusement plus lent. C'est pour cette raison qu'il existe aussi des techniques combinant le chiffrement asymétrique, mieux connu sous le nom de chiffrement hybride.
Oui, en général, notamment avec TLS, enfin ce qu'on appelait SSL avant, donc en HTTPS, quand vous initiez la connexion à un serveur, en fait, y a un échange d'une clé symétrique à partir de clés asymétriques. Donc on utilise la méthode qui est un peu lourde, pour échanger une clé qui va être plus rapide à utiliser après, quoi.
Ainsi, pour transmettre vos données de préférence, il faut utiliser un protocole garantissant la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire pour les transferts de fichiers, par exemple SFTP, HTTPS, en utilisant les versions les plus récentes des protocoles. C'est d'ailleurs voilà ce que tu parlais des versions HTTPS. Vous avez aussi...
On a dit il n'y a pas longtemps que les versions de TLS qui ont été dépréciées, donc elles ne sont plus utilisables de toute façon.
Après, vous avez aussi les VPN. Comment surfer incognito réellement ? Bah, la seule solution, ça peut être le VPN. C'est un réseau privé virtuel qui peut en effet rediriger votre trafic vers un serveur situé loin de chez vous, changer votre adresse IP, chiffrer vos données et vous rendre intraçable. Il existe des versions aussi bien gratuites que payantes. À vous de voir ce qui vous semble être le plus en confiance en fonction du degré de confidentialité de vos données. L'usage du VPN peut être lorsque les employés se connectent à un point d'accès public bien salvateur. Le principe, c'est que vous êtes connecté à un point d'accès VPN de manière chiffrée et celui-ci se charge pour vous d'aller sur Internet et vous renvoie le résultat de la même manière. Vous avez aussi c'est une autre méthode, hein, oignon alors. Mais si, vous pouvez aussi passer par le réseau alternatif. Mais de là, comme diraient certains, ce ne sont pas vos oignons, ou plutôt c'est tort.
T'as raison.
Ça marche. Oui.
Comme nous l'avions évoqué dans notre sujet du Darknet, Tor est un réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Il se compose d'un certain nombre de serveurs appelés nœuds du réseau et dont la liste est publique. Ce réseau permet d'anonymiser l'origine des connexions TCP. Dans tous les cas, soyez vigilants à ce que vous faites sur les réseaux. Même si vous vous sentez anonyme, des tas de petites traces vous trahiront. Le nerf de la guerre aujourd'hui reste les données que nous disséminons partout sur le net. Restez clair et ne dévoilez pas tout en pensant que vos données sont sur vos nuages et resteront à jamais aussi privées.
Bon, ben on va chiffrer alors.
Hein ? C'est ça, on va chiffrons.
Merci Cécile pour ces conseils.
Merci.
Eh ben, on va se refaire une petite pause. À tout de suite.
À tout de suite.
fait marche arrière et sont mis sur le côté. Coucou, ça va? Atari.
Coucou, ça va?
Atari.
Ta-ta-ta-ta. Oui, Atari. Parce que il faut savoir que pendant que je passe les musiques, nos amis en face de l'autre côté de GT, eh ben ils entendent pas la musique, par contre ils s'entendent entre eux, donc ils sont en train de discuter tranquillement. Et je dis, je remets les micros et oups, c'est pas grave.
Et donc la musique était issue d'une démo, oui, Happy 2021 by Desai. Donc c'est une musique qui a été faite sur Atari XL. Donc forcément, elle grince un peu, hein, parce que c'est vraiment de l'ancienne machine. Mais... Elle a été faite spécialement pour fêter la nouvelle année.
Ouais, Happy New Year. Happy New Year pour les Linuxiens.
Passons.
On passe
à
l'agenda. Jingle.
L'agenda.
Ah oui, parce que faut quand même mettre un jingle, faut fêter le fait qu'on a quand même un petit peu d'agenda, parce qu'en ce moment c'est compliqué.
Ah oui, rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Séminaire, l'évolution de l'économie de la micro-informatique en France et dans le monde. Claude Saltzman s'intéressera plus particulièrement aux sources de cette industrie, aux raisons des échecs de nombreux constructeurs, mais notamment des Européens, aux stratégies de certains constructeurs américains et chinois qui ont assuré leur succès. Inscription obligatoire, c'est le jeudi 14 janvier à 14h30 au CNAM à Paris ou en ligne.
Probablement plutôt en ligne, hein, en ce moment.
Conférence d'Alain Damasio. Alain Damasio est une figure incontournable de la littérature de science-fiction. En 2006, il reçoit le Grand Prix de l'Imaginaire pour son roman La Horde du Contrevent. En 2019, il publie Les Furtifs, un roman dans lequel la réalité augmentée a pris le pas sur la réalité palpable, où les villes sont privatisées et les hommes pistés. C'est autour de cette œuvre qu'Alain Damasio construit le spectacle Entrée dans la couleur avec les célèbres guitaristes Yann Péchin le vendredi 15 janvier à 14h à l'auditorium de la Cité de la Musique, 3 Quinte Sainte-Claire, 2600 Romans.
Romans sur Isère. Eh ben, on passe à Julien Edénien.
Sur son blog, Carl Chenet nous invite à changer notre culture inefficace du télétravail.
L'ingénierie inverse de GeoWrite 2.1 pour Commodore 64. Une série d'articles documente comment le code source a été reconstruit.
Quand un designer s'intéresse aux panneaux d'interface de Lego, qui donne un article intéressant.
Le site des ironèmes, c'est jeux de mots avec un moteur de recherche pour trouver tous ceux qui passent sur Mastodon. Il y en a un paquet, y compris de moi.
66 références de jeux vidéo à trouver dans cette image. Désolé, c'est une page sponsorisée, mais quand même, c'est super cool.
Console Do Not Track, une proposition de variable d'environnement pour demander au logiciel de ne pas nous pister. Hein, pas sûr que ça marche mieux que l'entête HTTP.
L'histoire de l'icône hamburger, pour ceux qui étaient, oui, le symbole du menu des interfaces mobiles, date en fait de 1981.
Eh oui. De nouvelles images en haute résolution pour l'anniversaire de Miyazaki qui ont été publiées par les studios Ghibli.
Et enfin, le planning préliminaire de la DevRoom Rétro pour Fosse Dame est sorti. Si vous parlez anglais et que vous souhaitez aider pendant les confs, contactez-nous, on n'est toujours pas assez.
Ouais, on est que deux, en fait. Et puis, on est en retard, donc j'ai mis une semaine de trop pour faire des trucs. Enfin bon, c'est compliqué, mais on va y arriver.
Allez, on frotte la boule de cristal. Que dit-elle? Season Min, bon, j'arrive pas à trouver ce réglage. C'est dans quel fichier? Fichier.
Technophile, alors, t'as une Freebox Poop? Non, j'ai une une V5.
Hacker, un paquet IPv4 entre dans un bar, le tenancier lui dit « Vous avez l'air épuisé. »
Nerd, oh, il y a plein de connecteurs sur ce dock. On dit un vrai élevage de porc.
Codeur, je viens de recevoir un pull request. Il a raison, il fait vraiment froid.
Amigaïste, il la migra sur l'Amiga.
Vive Amiga.
Ouh là là.
Allez, Amiga.
Make it possible.
Voilà, tu vois, tu la connais.
Oh, Amiga.
Ah là là. Bon, ben...
Je crois
avant d'être
que
complètement dingo, on va se dire à la semaine prochaine.
Bien commencé l'année. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup comment ça se passe.
C'est
en
le reste.
En tout cas, amis auditeurs, on se retrouve encore la semaine prochaine. Mais Belle, tu voulais finir sur quelque chose?
Non, non, je disais, c'était le restant des verres.
Ah bah oui. En tout cas, portez-vous bien. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Salut.